Ça va, Marc.
Ça va bien.
Ah non, mais je vais mettre en place une ambiance martiale.
Mon général, alors, du coup. Général Abicaire.
Bah non, 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 moi je suis pas général, mais quand on s'adresse à un général, on lui dit, mon général, si on est un homme, c'est comme ça, c'est réglé. C'est le général Trinquant qui l'a dit.
Une femme dit général.
Oui, une femme dit général.
Et moi, on me dit maître, un académicien.
Ah ben bah, vous êtes éternel, vous, on dit.
Maître.
Sa sainteté, Marc Lambron.
Surtout sa femme avocat me dit maître.
Bien, Marc Bourreau, on va la faire, cette revue de presse. Dans les journaux ce matin, les bons et les mauvais génies.
Ah oui, comme dans ces maisons bleues adossées à la colline à San Francisco, vous raconte le journal Le Monde. Oui, ça commence comme une chanson de Maxime Le Forestier, mais ça finit comme un roman de science-fiction. San Francisco, aujourd'hui, s'est transformé en Eldorado de l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la Cerebral Valley. Des dizaines de start-up, des centaines d'entrepreneurs néo-hippies lancés dans une ruée vers l'or des temps modernes, persuadés de participer à la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. De jeunes gens, la trentaine, plus accueillants que leurs prédécesseurs de Google, d'Apple ou de Facebook, terminer ses employés muselés par les accords de confidentialité, ces entrepreneurs affichent haut et fort leurs ambitions. Avant, on programmait un truc cool, mais ça c'était avant. Maintenant, on a tellement évolué que certains ingénieurs se demandent à quoi ils servent. Un autre, en revanche, est un peu nerveux. Il travaille sur le projet QStar, une intelligence artificielle générale capable d'effectuer n'importe quelle tâche. L'IA, pour l'instant, elle est désorganisée, dit-il. Il faut lui apprendre à rester sur les rails, mais la promesse est fabuleuse, poursuit-il dans l'article du Monde. Bientôt, les citoyens auront leur propre IA. Elle travaillera et gagnera de l'argent pour eux. Les citoyens ne seront plus des consommateurs, mais des producteurs. Dans 20 ans, les gens feront peut-être des choses plus intéressantes que de répondre au téléphone toute la journée dans les centres d'appel.
Ah, les prophéties de la Californie. Et pendant ce temps, en France, c'est le système D.
Oui, le Figaro, à sa une, vous parle de ces Français face à la panne des services de proximité. Dur retour à la réalité. Dans ce reportage d'Angélique Negroni, l'un des premiers thermomètres, c'est peut-être le transport. Ces milliers d'étudiants du campus d'Orsay en région parisienne, contraints du jour au lendemain de faire une demi-heure de marche entre le RER et la fac, plus un seul bus, faute de bras. La solution, eh bien, se tourner vers les retraités. Gérard a repris du service et se désole, le métier a été déserté. En Dordogne, même problème, on a vu un agriculteur embarquer 6 enfants dans son godet pour les emmener à l'école. La liste n'en finit pas. À Albi, dans le Tarn, là, c'est un centre médical qui fonctionne grâce à une équipe 100% médecins retraités, des papis praticiens dont le plus âgé a 78 ans.
Il a embarqué des enfants dans son godet.
Incroyable.
C'est
comme
quoi
histoire.
Un godet?
C'était
je connaissais pas ce mot-là.
C'est une pelle qui est devant les
tracteurs. Ah, mais oui.
Voilà, une pelle.
Ah, mais oui, j'ai vu la photo.
Voilà, pas de médecin du tout. En revanche, à Cormeil, en Parisie, dans le Val d'Oise, la municipalité a carrément installé une cabine de téléconsultation médicale. Alors, ça marche comme ça. Un écran où apparaît un généraliste à distance, et à côté de cet écran, il y a divers appareils pour faire soi-même ses examens. Voilà donc la France du silence, écrit dans son édito Jacques-Olivier Martin, celle de la désertification des territoires, un sentiment d'abandon, un rejet grandissant vis-à-vis des grandes villes. Voilà un sujet majeur à l'heure, écrit-il, où les débats sur l'immigration, sur la préférence nationale agitent la capitale.
Alors on va ajouter à cela l'affaire Gérard Depardieu qui rebondit.
Oui, vos journaux reviennent longuement sur la polémique du moment, cette tribune de soutien à l'acteur signée par une cinquantaine d'artistes. Une tribune dont le Parisien vous explique l'origine ce matin. Le comédien Michel Faux qui en parle à Yanis Eziadi, lui-même acteur, mais aussi éditorialiste au magazine d'extrême droite Causeur. Eziadi fait marcher son carnet d'adresses pour décrocher les signatures. Il essuie plusieurs refus. Il va chercher dans son entourage. Et voilà comment une ancienne candidate de télé-réalité, Afida Turner, a laissé son paraf à Afida Turner, contactée par le Parisien botte en touche. Pourquoi je suis là? Bien, je ne peux pas vous en dire plus. Mais j'ai toujours aimé le franc-parler de Depardieu. Et puis, il est capricorne quand même.
Ça compte.
Cette affaire Depardieu, elle dit aussi beaucoup d'Emmanuel Macron, estime l'opinion. Le chef de l'État avait apporté son soutien à l'acteur, salué le génie de son art qui rend fier à la France. Le producteur Jean-Marc Dumonté, ami du chef de l'État, commente une constance chez Emmanuel Macron, c'est son art du contre-pied.
Des bons et des mauvais génies dans le Figaro également ce matin.
Ouais, alors le mauvais génie, c'était le surnom de Patrick Buisson, décédé hier, un homme romanesque, écrit le quotidien. Il parlait à l'oreille de Nicolas Sarkozy. Il était le théoricien de l'Union des droites et à son palmarès plusieurs coups politiques. Le premier remonte sans doute à mai 68. Buisson, étudiant à la faculté de Nanterre, fonde une corporation contre ce que l'on appelait les gauchistes. Et c'est lui qui sera à l'origine de l'interpellation d'un certain Daniel Cohn-Bendit. Mauvais génie et politique aussi dans le journal Le Monde. Carnet d'une non-campagne pour la présidentielle en Russie, où Vladimir Poutine est quasiment donné vainqueur avant le scrutin. L'opposition est en miettes. Verbatim d'une rencontre formelle entre le Kremlin et les groupes parlementaires. Le dirigeant du Parti communiste, théoriquement premier parti d'opposition, démission se serait violemment emportée, ironise Benoît Vidkine. Je suis désolé de vous le dire, monsieur Poutine, mais j'aimerais fouetter la personne qui vous a laissé sortir sans couvre-chef par moins 15 degrés lors de l'inauguration d'un sous-marin. La santé du commandant en chef dans un contexte de guerre, c'est la santé de la nation.
Quelle mise en garde!
Voilà, quelle mise en garde. D'autant que la Croix,
il a dû être puni très
lourdement, oui. En tout cas, beaucoup moins qu'Alexei Navalny. La Croix vous donne des nouvelles de l'opposant enfermé dans la prison la plus cruelle et la plus froide de Russie. Là-bas, l'hiver, la lumière perce le plafond nuageux 3 heures par jour. Les températures actuellement descendent sous les moins 40.
Des génies, des vrais pour se remonter le moral.
Oui, alors vos journaux fourmillent en ce moment de découvertes scientifiques. Précipitez-vous sur cet article, page 11 du Figaro, qui vous raconte le secret des sèches pour changer de couleur. Les sèches, hein, cet animal sous-marin, tantôt sombre, tantôt lumineuse, la sèche pour se dissimuler des prédateurs ou pour faire la cour. Je t'ai vu aussi sur le supplément Science du Monde qui retrace les grandes découvertes de l'année 2023 et méditer sur ces traces de pas découvertes dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis. Des pas de chasseurs-cueilleurs dont la datation a été confirmée il y a quelques semaines. 23 000 ans d'ancienneté. L'homme est arrivé beaucoup plus tôt que prévu aux États-Unis et on peut s'interroger ce matin, ces chasseurs-cueilleurs savaient-ils où ils allaient?
Ça, c'est une grande énigme. Peut-être qu'un jour, on saura. Marc Bourreau pour la revue de presse qu'on retrouve sur radioclassique.fr. Merci Marc et à demain.
À demain.
Tout de suite, deux incarnations à leur façon du génie français dont vous venez de parler. Routel-Krieg.